Eh bien, salut à tous, salut Baptiste, et dans cet épisode de Parlons Dev, on va discuter TypeScript, appliqué à un sujet plutôt précis qui est, par exemple, l'arrivage sur un projet avec un héritage fort sur des configurations trop permissives ou une implémentation pas très stricte de TypeScript. Comment vas-tu, Baptiste, avant tout?
M'écoute très bien. Pressé que tu nous parles de TypeScript, des petits problèmes que tu as eu avec.
Ouais, c'est un exemple un peu appliqué sur un retour d'expérience que d'ailleurs. Pas tant un retour, mais plutôt mon présent aussi. Mais en effet, donc pour poser un peu plus de contexte, il s'agit de traiter une legacy, on va dire, dans le temps sur un gros projet par exemple, avec un bon nombre d'erreurs lorsque la configuration TypeScript devient stricte. On parle d'un volume, disons, environ 10 000 erreurs générées suite à l'activation par exemple du très connu strict null check à true. Si on doit Pour préciser ce qu'est ce flag ou cette config, il s'agit de faire bien une différence au niveau du compilateur pour TypeScript entre null, undefined, ce qui amène vraiment plein de modifications, déjà ne serait-ce que dans le devenv, pardon, dans la déclaration des modèles, la gestion des modèles, la lecture des modèles, toute la logique en réalité. Mais ce qui est assez insidieux, pardon, avec ce flag aussi, c'est que désactiver, il peut amener vraiment de très concrètes erreurs au runtime, quoi. Ça s'arrête pas qu'à TypeScript, c'est des comportements indéterminés, des side effects qui vraiment vont impacter la production de ce site ou ce genre de choses, quoi.
Il y
Donc
a
c'est là
aussi un
d'ailleurs.
problème avec les champs optionnels, comme
Ouais,
quoi ça.
tout à fait. Et là, il y a une petite surcharge en plus qui est que dans beaucoup de modèles, mais pas tous, par exemple dans certains cas où tu peux avoir des champs qui sont déclarés nuls, mais qui sont en réalité undefined, etc. Et lorsque tu fais une comparaison stricte entre null et undefined, bah, tu as encore plus de potentiel d'erreur. Ce qui fait qu'il y a vraiment une double relecture entre quelle est la donnée auquel je peux m'attendre, est-ce qu'elle est vraiment optionnelle, et si elle est optionnelle, et si elle n'est pas optionnelle, est-ce qu'elle peut être nullable, quoi. C'est le côté un
Donc,
peu fourbe.
sans ce flag, est-ce qu'on peut dire que l'avantage de TypeScript est sacrément réduit? Quel est
Ah
ton
bah
avis
oui,
là-dessus? Est-ce que
largement. En
ça.
tout cas, selon moi, oui. Mais je pense que ce flag. Alors je sais pas d'ailleurs tiens, les raisons exactes de ce flag. Je pense que c'est plus pour une version lightweight ou sur le passage à un projet
Ouais, migration
anciennement
progressive
JS,
sûrement.
voilà, c'est ça. Mais ce qui est très compliqué aussi avec ce flag, donc toujours pour rester sur le strict null checks, c'est que pour le régler les soucis, il n'y a pas vraiment de recette incrémentale, quoi. C'est-à-dire que bah félicitations, tu as 8 000 erreurs de TypeScript. Comment tu vas les gérer? Et surtout, une erreur de TypeScript peut en cacher une autre. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc, quand tu fais une mutation stricte des modèles de données en entrée, par exemple sur une API REST que tu consommes, bah en réalité, tout ton front et tous tes services qui en découlent, toutes tes vues, etc., qui en découlent, vont la consommer différemment, vu qu'elle sera strictement typée. Il faudra gérer tous les use cases, enfin tous les use cases où, par exemple, tu n'as pas réussi à récupérer une donnée ou peu importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que bon après, sans être le détracteur, mais je peux comprendre que les gens veulent aller vers un produit, sont très axés solutions, etc. Mais je pense que, enfin, j'entends les détracteurs de TypeScript dire que c'est trop chiant, quoi. En gros, ton compilote te dit, attention, c'est peut-être undefined, mais ça le sera jamais. Bah en réalité, TypeScript te permet de faire en sorte que ça ne le soit jamais, quoi. Donc c'est souvent les selon moi, hein, ça n'engage que moi, mais les contre-arguments qu'on trouve à TypeScript en réalité viennent d'une mauvaise intégration ou quelque chose de pas assez strict justement.
Enfin, ça dépend peut-être aussi du projet, parce que c'est des choses que je vois beaucoup sur Twitter, où 10 personnes ont tout un avis divergent sur la question du degré de strictness que doit avoir TypeScript, et par exemple, quel comportement adopter face à, je sais pas, à quelque chose qu'on n'arrive pas à typer, et j'ai vu ça il y a quelques jours, où les gens, Matt Pocock aussi donnait son avis là-dessus, sur... la différence entre TS Ignore, TS Expect Error ou juste Cast As Any, ce genre de choses. Personne n'a le même
Oui,
avis
c'est
là-dessus.
vrai.
Ça dépend sûrement de la taille de l'équipe, le produit, la philosophie de shipping, si on est plus en ship fast ou si au contraire, il y a beaucoup de tests, beaucoup de CI, des tests comme ça. Toi peut-être, Paul, que tu es plus dans une culture d'entreprise là où tu es. Où il faut sortir quelque chose qui marche bien, un peu en béton, non?
Bah, j'aurais tendance à te dire que
Je
oui,
dis
mais
ça
la
tout en ayant
preuve.
que t'as les 8000 problèmes de
Voilà, c'est
TypeScript.
ça quoi. Donc en même temps, moi je pense surtout que Après, dans ce genre de grosses boîtes et de grosses entreprises, les décisions techniques, elles sont prises vraiment plus tard, enfin, je veux dire, sur des migrations de techno, etc. Et mon ressenti là-dessus, sans vraiment connaître le sujet, de nouveau, c'est mon avis personnel, c'est que fut un moment où TypeScript c'était à la mode, et il a fallu faire un projet TypeScript, et les gens, du coup, ont vraiment en réalité créé un projet qui a des fichiers TypeScript, mais qui en réalité est plus un projet JavaScript, hein.
Oui.
Mais après, il y a quand même des choses en réalité, hein. Il veut dire, tous les modèles sont explicitement déclarés, etc. Mais de nouveau, on est sur un énorme site qui consomme énormément de services et qui n'a aucune synchronicité entre les services et les types. Donc, maintenir des modèles à la main sans avoir forcément l'information qu'un modèle a muté, c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs, enfin, ça sera peut-être pour une autre fois, mais TRCP, TRCP? Ouais, c'est ça.
TRPC.
TRPC. Ouais, je confonds tout le temps. Et TS REST ou même encore Zodios sont des solutions vachement intéressantes pour ce genre de cas, pour ne serait-ce que d'ailleurs avoir une lib de type partagé en réalité, hein, entre.
Ouais.
Bah après, ça dépend de la stack technique de ton API, quoi.
Si c'est
Mais
du Java en bac, quel est ton avis?
bah, c'est-à-dire que du moment que ton service, peu importe, tu peux être agnostique de la techno back, du moment qu'est exporté un Open API Specification, tu peux générer un peu une infinité de choses, hein, ne serait-ce que d'ailleurs des BFF ou peu importe. Enfin, je veux dire, tu peux surcharger un peu comme tu veux.
BFF, c'est quoi? Best Friend
Back and forth.
Forever
Back
ou
and forth
c'est autre
front-end.
chose, hein?
Best friend forever. Bon, ça marche aussi. Tout à fait. Mais oui, en effet, c'est des sujets vachement plus poussés que simplement fixer des heures TypeScript. Après, c'est vraiment définir les bases qui font que ton TypeScript va être maintenable et rigoureux dans le temps, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs, comment approcher ces gros volumes d'heures TypeScript, c'est-à-dire que les fixer manuellement n'est même plus imaginable. Et les faire de manière automatique non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux pas automatiser avec des regex ou des search and replace des modifications qui vont avoir des régressions sur le fonctionnel. C'est pas si simple. C'est pas, par exemple, une migration d'une lib à une autre comme je pense à Karma vers Jest. Où, bon, bah, en effet, il y a des régressions, enfin, il y a des différences entre les API. En cherchant un petit peu avec des regex, il est possible en tout cas, ça dépend de la complexité de ton application, de faire une migration automatique, plus ou moins. C'est-à-dire
D'accord.
que tu peux trouver des patterns récurrents et les remplacer.
Mais donc, si on peut ni faire le changement manuellement, ni utiliser un outil, il reste plus que l'intervention divine ou t'as une autre solution
Alors,
pour
bah,
nous?
tout refaire, c'est une
Ah.
possibilité. Mais from scratch, après, à vrai dire, c'est pas possible. C'est même pas quelque chose de budgétisable dans la vraie vie, là. En tout cas, me concernant. De nouveau, l'idée, c'est pas que de parler de mon sujet, enfin, de mes problèmes actuels sur ce sujet-là, mais. Plutôt dans son ensemble, c'est peu importe si même toi qui nous écoutes, tu arrives sur un projet TypeScript avec ne serait-ce que 1000 erreurs où tu t'aperçois qu'en réalité, enfin, peu importe la quantité d'erreurs, que certains flags de strictness ne sont pas activés et que tu souhaites les activer. C'est là que c'est intéressant. C'est de déjà, personnellement en tout cas, mon approche est de trouver le dead code. Imaginons des fichiers de mock qui sont en héritage, qui ne sont même plus consommés dans des tests, etc. S'ils sont pas typés avec des force cast ou des type assertion force, bah du coup il y aura des erreurs de TypeScript. Donc utiliser des outils comme Knip ou encore TS Prune pour déterminer vraiment des occurrences dans ta codebase qui amènent des erreurs TypeScript mais qui en réalité ne sont pas du tout légitimes quoi. Vraiment faire un bon coup de
Faut bien élaguer avant de
c'est
commencer à
exactement
essayer de
voilà
résoudre les
c'est
problèmes,
exactement
ouais.
le terme.
D'accord.
Et donc après avoir élagué, c'est là encore où c'est un autre débat, mais personnellement, je fais vraiment une différence du coup. En fait, il faut faire attention aux tests. C'est-à-dire que tu vas sûrement rencontrer des erreurs de type. Tu as forcément des erreurs de type dans tes tests. Ça dépend de la granularité de tes mocks, etc. Mais le problème, c'est que si tu, par exemple, on revient sur le strict null checks, est désactivé, en réalité, tu peux démarrer tes tests sur des modèles partiels de ton application. C'est-à-dire que tu vas tester. Je sais pas que la page de ton user elle s'affiche bien, mais en réalité dans ton test tu ne vas moquer que le nom du user. Et pour une raison X ou Y, imaginons que d'autres champs dans le user soient définis, viennent changer la vue, que le titre soit plus disponible, etc. parce que des éléments sont apparus, bah par exemple un de tes tests peut casser sur la position de l'élément ou sur sa visibilité, etc. Donc du jour au lendemain, tu vas vraiment modifier la base, enfin l'écosystème dans le. Enfin le contexte d'exécution exactement de tes tests, ce qui font que ça pourrait avoir un impact sur leur résultante, quoi. À noter aussi que dans des tests d'intégration ou des tests end-to-end, il y a une sacrée plus-value à ne pas avoir pas ces soucis-là, quoi. C'est plus user-oriented et t'as pas à te soucier de qu'est-ce que tu injectes dans ton component à ce moment précis, mais plutôt à savoir qu'est-ce qui en ressort sur ce DOM ou ce JS DOM, quoi. Voilà. Mais du coup, faut faire
Donc,
attention.
juste pour que tout le monde comprenne, l'application où tu as 8000 erreurs TypeScript, c'est du front ou du back?
C'est du front.
C'est du front,
Oui,
d'accord.
oui, oui. Tout à fait. Mais d'ailleurs, dans le cas de back, en réalité, je ne. Le strict null checks false sur du back, je vois même pas comment c'est concevable en réalité, hein. Parce que ne serait-ce qu'en termes de sécurité, ne pas savoir ce que tu vas
Ouais.
provider dans ton API, je trouve ça limite, et même il est forcément obligatoire de définir un contract API avec qui, peu importe qui consomme ton service, quoi. Donc ça, je suis sûr que ça existe, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, je suis plus dubitatif quand même.
Oui.
Mais donc les tenants aboutissants, en réalité, t'as raison, sont différents dans ce genre de cas. Tout à fait.
En tout cas, de mon expérience aussi, bosser sur des codebases avec un strict null check qui ne soit pas défini à trous, ou même tout simplement une config TypeScript qui soit pas strict, c'est un peu compliqué parce que l'avantage de TypeScript se fait moins sentir et ça donne même plus l'impression que c'est un peu un boulet au pied, quoi, parce que
Bah oui.
On fait directement. C'est comme si on faisait du JavaScript sans
Bah.
aucune sécurité, en pensant qu'il y en a, parce que c'est marqué TypeScript quand on compile
Ouais,
ou quoi.
exactement. Ou que tes fichiers sont des .ts aussi.
C'est ça.
Mais c'est là le faux ami. En réalité, personnellement, avant d'arriver sur un projet, je vais enfin, je regarde le package JSON, mais aussi le test config. Parce que tu t'aperçois très vite que, enfin, si tu dois faire des choses fonctionner sur un projet, tu t'aperçois très vite que ça va être plus compliqué en fonction des flags ou pas qui sont créés. D'ailleurs, il n'y a pas que le strict null checks, en réalité, il y en a d'autres, hein. Par exemple, en réalité, enfin, c'est ça qui est un peu vicieux, je trouve, c'est que pour un débutant en TypeScript, et c'est souvent le cas, par exemple, à 42 sur l'FT Transcendance, beaucoup de gens vont désactiver le strict null checks. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des erreurs TypeScript qu'ils ne comprennent pas, et qu'ils vont Google au premier abord, et le premier truc sur lequel ils tombent, c'est un article Stack Overflow où le premier commentaire liké ou qui a été. C'est pas souvent le plus liké, mais c'est celui qui a été marqué comme réponse au sujet, quoi. Et ben, ça va être de désactiver ce flag, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, tu vas désactiver, t'auras plus le problème. Oui, en effet. Mais c'est comme ne jamais free ses malloc ou j'en sais rien, quoi. C'est plus un problème d'intégration qu'un problème de. Enfin, c'est plus un problème de conception, quoi.
Après, souvent, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est d'abandonner la poursuite de cet objectif,
Ah
quoi. Donc,
bah très bien, allons élever des chèvres dans l'Aubérac alors.
non,
Mais
mais là, c'est vrai que dans ce coup-là, c'est un peu extrémiste, mais.
Bah là, c'est quand même désactiver un pan massif de TypeScript. Mais surtout,
Oui, non.
c'est pas faire du TypeScript que désactiver ce flag-là, j'insiste un peu. En réalité, il y a une autre plus-value à TypeScript quand tu désactives ce flag, c'est que tu consommes des librairies qui sont fortement typées. Donc malgré tout, tu as de l'autocomplétion sur ces données-là, tu peux t'attendre à une strictness des services que tu consommes. Donc malgré tout, tu peux quand
Ça, c'est
même.
vrai même en JavaScript, si, pourvu que tu sois dans un environnement qui comprenne le TypeScript. Dans VS Code, t'as
C'est
le
vrai.
language
Oui.
server
Oui, là j'avoue,
de TypeScript.
c'est vrai, c'est plus lié à l'IDE en réalité, hein.
Mais donc, il y a encore moins d'avantages si on oublie celui-là,
C'est
quoi.
vrai, c'est vrai. Non, comme ça. C'est en réalité, merci VS Code surtout. Je suis d'accord. Et un dernier, je sais pas d'ailleurs si tu l'as rencontré beaucoup celui-là ou pas, mais ça souvent sur des projets Nest, bah d'ailleurs de nouveau FT Transcendance, hein, le strict property initialization init, je vais le concaténer à ça,
D'accord.
flemme de galérer, qui est à
Faut qu'on
false.
cherche des sponsors qui sont orthophonistes, peut-être. Moi
Ouais,
aussi, j'ai
voilà,
souvent du mal.
exactement, je prendrai rendez-vous tout de suite. Enfin bon. Et du coup, oui, ce que je disais, c'est que
Que fait
lorsque
ce flag?
voilà, ce flag te permet de ne pas assigner lors d'une déclaration d'une variable d'une classe, de ne pas l'assigner à la volée. C'est-à-dire que tu déclares ta classe, mais tu ne fais pas d'assignation. Et c'est-à-dire que couplé à strict null checks, tu te retrouves avec des entrées ou des variables dans ta classe qui sont typées et non
Mais jamais
assignées.
présente.
Mais du coup, elles sont undefined, mais pas typées comme undefined.
Ah d'accord, ok,
Tu vois ce que je veux
je
dire?
vois.
Et donc
Je vois,
ça c'est
ça doit être la
pareil,
joie.
c'est encore une galère. À savoir aussi que pour le coup, si encore ce que je disais tout à l'heure pour l'article Stack Overflow pardon de strict null checks était vrai, il est un peu en vrai satirique parce que quand même c'est un peu gros. Mais celui-là il est concret, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas les gens vont demander à désactiver ce flag et souvent c'est le cas dans Nest parce qu'en réalité tu déclares tous tes modèles et tes interfaces à travers des classes pour des plus-values comme Class Transformer, etc., pour de la validation ou même du typage de Swagger. savoir qu'il existe d'autres solutions, plus ZOD, qui permettent aussi de faire ce genre de truc, même dans une stack Nest.js. Enfin bref, il existe aussi une manière de ne pas avoir cette erreur native au TypeScript. J'en oublie toujours le nom. Je vais sûrement le retrouver, mais c'est faire une assignation avec un point d'exclamation juste avant les deux points de ta variable, qui permet en fait de dire ben, elle n'aura pas d'assignation par défaut, quoi.
Enfin, bon. C'est pas pour dire que le champ est optionnel et qu'il peut ne pas être défini, par exemple dans une interface. C'est de ça que tu parles.
Non, ça c'est. Enfin là, tu parles vraiment de champ optionnel avec le point d'interrogation, non?
Le point d'interrogation.
Voilà, moi je parle vraiment des points d'exclamation.
D'exclamation, oui.
Je l'oublie tout le temps le nom de cette mécanique-là.
Oui. C'est pour dire que ce truc-là est vraiment défini, même si tu crois que ça l'est pas. Donc.
Je saurais plus exactement te dire. Hop, je vais rapidement le chercher, mais après, bon, en vrai, non. Il y a vraiment un terme pour cet aspect-là, je l'avais pas anticipé. Ça m'est venu en discutant. Mais dans le cas de Nest, c'est assez récurrent, ou même. En vrai, c'est assez rare de pas vouloir déclarer ta. Enfin, c'est le gros problème, je trouve, avec ces modèles-là, c'est que du coup, la plus-value de la classe est. Ok, il y a besoin de Nest pour faire de la validation au runtime, d'avoir un résidu de ton type, ça peut pas être des interfaces. Mais t'as toujours des alternatives. Qui sont moins idiomatiques, c'est sûr.
Peut-être juste préciser, comme tu l'as abordé plusieurs fois, ce qu'est le projet Transcendance 42. 42, c'est l'école que nous avons tous les deux faite.
Bien vu,
d'informatique. C'est vrai. Le projet Transcendance, on ne l'a pas fait ni toi ni moi.
Mais, on en a corrigé. Enfin, moi, j'en ai review 2-3, quoi. Mais, je t'en prie, vas-y, je te laisse le décrire.
Ah, ouais, c'est le projet final à l'école 42 actuellement, qui permet ensuite de faire un stage ou de continuer le cursus. Mmh. Et actuellement, je crois que ça va changer, mais actuellement, l'idée, c'est de faire un Pong, si je dis pas de bêtises,
ouais.
Avec plein d'autres fonctionnalités, création de compte, multi-room, des choses comme ça.
Ouais.
Voilà.
Ouais, après le sujet a une spec définie vraiment autour du jeu, un chat et des joueurs, des amis, etc. Après, de nouveau, dès que t'as. Enfin, le sujet n'est pas. Est assez brut de fonderie, c'est-à-dire que ce sera laissé au goût de chacun d'implémenter des surcharges ou des modes ou peu importe le genre de choses. Mais la stack d'ailleurs est imposée, mais. Je crois que c'est dont tu parlais, mais je crois que dans le front c'était du React. Quoique
dans
non, il n'y avait
front,
pas.
Il faut du TypeScript. Enfin, l'heure actuelle, et côté back, c'est du Nest. Ça, c'est okay. Forcé, je crois.
Ok, ok.
Et voilà.
Et du coup, il y a forcément aussi des notions de real-time protocole, comme du socket, etc. Enfin, des websockets. Pour la gestion du jeu, tout simplement. Enfin, voilà. Mais du coup, voilà pour FT Transcendant, c'est pour ça. D'ailleurs, ça. C'est assez récurrent, ce genre de petits soucis, de petites coquilles qu'on rencontre sur des projets.
Parce que les étudiants découvrent le TypeScript. 99% avec ce projet. Jusque là, c'est des projets principalement axés système avec du C, c'est que du C, du C++. Et là, c'est le vrai premier projet tourné web. C'est pour ça que, alors, je parle aussi sous ton contrôle, bien sûr, mais c'est pour ça que souvent on a vu des étudiants commettre cette erreur, mais on l'a. Moi aussi, j'ai déjà fait le coup de désactiver les trucs quand tu connais pas.
Bien sûr.
C'est ça.
Mais surtout, je sais pas si en réalité est une erreur le nom qu'on lui donne, quoi. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a vraiment quelqu'un qui a
une
jour
faute.
Activé ce flag.
Non, mais. T'as raison.
Ouais, non, mais. Enfin, est-ce que c'est vraiment tout le temps une erreur de désactiver ce flag? C'est ça la question que je me pose. Je pense qu'il y a vraiment un moment où c'est vraiment utile, ne serait-ce que dans une période transitoire, pour redéfinir l'aspect de nouveau, tu vois. C'est pas forcément une erreur, c'est ça. Pas non plus. Il y a des choses qui nous dépassent.
Oui, et puis parfois, on l'a un petit peu dit au début, mais il y a des contraintes business qui font que, plutôt que d'être bloqué sur 8000 heures TypeScript ou même moins, plutôt que de ralentir la progression du développement, parfois, il faut push en prod, les utilisateurs attendent un fixe ou quoi, et donc on se permet. Quelques facilités, mais qui sont nécessaires. C'est le principe du développement, c'est qu'on n'est pas juste là pour théoriser des choses, mais on est surtout là pour développer des outils qui servent aux utilisateurs. Donc,
ouais.
C'est ce que je vois beaucoup sur Twitter aussi, cette, un peu cette, cette
ce mouvement
dichotomie entre les utilisateurs, enfin les développeurs qui sont un petit peu à cheval sur comment doivent être faites les choses et ceux qui au contraire s'en foutent complètement. Donc bon, je pense qu'on peut trouver un juste milieu en étant ni un extrémiste ni d'un côté ni de l'autre, mais en sachant que TypeScript est là pour nous aider et que même si parfois moi aussi honnêtement, très régulièrement, je fais du UTS expect error, des choses comme ça, parce que j'ai juste envie de passer à autre chose, ou que c'est un problème d'incompatibilité dans une lib, ou des choses comme ça, des choses qui sont pas forcément que de mon ressort, mais j'ai juste pas envie de passer trop de temps là-dessus. Et mais il faut pas perdre, à mon sens, de vue que TypeScript est là pour qu'il apporte énormément d'avantages.
C'est ça.
Quoi.
C'est pas une contrainte, en réalité, c'est un allié. Hein. Ça évite d'avoir run, ne serait-ce que la compilation, par exemple en C. Compilateur est aussi ton allié, tu vois. Enfin, c'est une surcharge qui te permet d'éviter de.
En Rust un peu moins, de
oui.
Ce que j'ai compris.
Ah, ça. Mais. Je peux pas être en désaccord. Mais. C'est vrai que TypeScript est souvent vu comme une plaie par les gens qui ont toujours été sur du JavaScript un peu vanilla ou des implémentations un peu basiques. Mais enfin, personnellement, ce que j'aime énormément avec TypeScript, c'est que peu importe la stack sur laquelle tu... Enfin, le projet, pardon, parce que la stack, ça sera forcément du TypeScript, du coup. Mais le projet sur lequel tu arrives, t'as toujours une aisance de savoir lire pas seulement le code, mais aussi les types. C'est-à-dire que avant de réfléchir à la complexité fonctionnelle, je réfléchis à quel est le modèle de données ou quelles sont les datas qui vont traverser mes différentes complexités et comment je peux les définir avant même d'arriver à développer le contenu de mon component ou de ma vue, peu importe, à savoir que bah là, ce component va recevoir forcément, cette vue-là va recevoir forcément des données strictement typées qui sont plus undefined parce que ces cas-là ont été gérés par un handler plus global au-dessus. Enfin, tu vois, c'est plus des détails d'implémentation, ça pousse à la réflexion avant de... C'est un peu comme XState, sur ce point-là.
Yes.
Il faut bien qu'on en parle. Mais,
par rapport à ça, je pense qu'il faut quand même noter que d'un projet à l'autre, d'un développeur à l'autre, on n'a pas forcément tous les mêmes manières de définir les types.
Ah non.
Tout à l'heure, tu parlais de Zod. J'utilise aussi Zod très régulièrement, où je définis quasiment tous les types qui nécessitent aussi une validation, comme les choses que je récupère d'une, d'une API, les choses que j'envoie une API.
Ouais.
Tout ça, je le définis avec du Zod pour ensuite pouvoir le parser. Et honnêtement, c'est une librairie, quoi. Ça n'a rien de natif à TypeScript. Donc ça nécessite encore un apprentissage supplémentaire pour quelqu'un qui arriverait sur ce projet.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est toujours important de le préciser, mais TypeScript n'existe pas au runtime. C'est-à-dire que derrière TypeScript, c'est une transpilation qui amène à du JavaScript. C'est parfois un peu compliqué à comprendre au début. Enfin, c'est pas quelque chose auquel tu t'attends. Et c'est là qu'en fait, Zod est une surcharge super intéressante parce qu'elle permet de persister le typage au runtime. Ou en tout cas, aux yeux du développeur, c'est transparent. C'est-à-dire que...
De donner un peu une existence au type,
oui,
en s'assurant que le type auquel on s'attend est bien celui qu'on a au runtime en validant les données. Oui.
C'est ça. Donc en fait, Zod, c'est vraiment une librairie de déclaration d'objets qui permettent d'infer des types TypeScript. Et ces objets sont utilisés au runtime par Zod pour parser les modèles de données en entrée. En règle générale, moi, c'est ce que je conseillerais tout le temps. Enfin, ce que je conseillerais, c'est ce que je ferais tout le temps. C'est lorsque je consomme une API, je vais vraiment à tester des champs vraiment bloquants pour moi s'ils sont pas là. Je vais vraiment vérifier leur cohérence, leur consistency au runtime comme ça. Après, t'envoies des données aux API et tu les parses à la volée dans ton service ou tu veux dire, par exemple, tu les intègres à du React Cloud Form ou des trucs comme ça.
T'as tout dit. Voilà, je vais juste quitter le podcast.
Ouais, désolé, je
t'ai mis une photo de toi-même. Non, mais effectivement, quand je valide des formulaires, je fais ça avec Zod, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups, ce qui permet de t'assurer que tu envoies les bonnes données à ton bac, même si derrière, il le vérifie forcément, mais ça te permet aussi de valider le formulaire, par exemple que l'email sélectionné soit bien un vrai email, ou que le string entrée contienne bien plus de 3 caractères.
Mmh.
Concernant ça, il y a juste une chose que je veux noter, c'est que j'ai vu, encore une fois, Twitter est mon flux d'informations principal, mais j'ai vu des gens discuter du fait que c'est un peu compliqué de faire ça avec de l'internationalisation. Parce que ce que Zod permet de faire, c'est que quand on dit, voilà, ça doit être un string d'une longueur minimale de 3 caractères, tu peux préciser le message d'erreur qui est levé si la condition n'est pas respectée. Et j'ai vu des gens se demander comment ajouter de l'internalisation avec ça pour ne pas directement mettre le string anglais,
statique.
Le message d'erreur, c'est ça, en dur. L'idée, c'est d'utiliser une clé un peu, qui vient ensuite récupérer les choses qui sont dans ton fichier d'internalisation.
Mais avec i18n, ça doit être plutôt faisable. Après, c'est vrai que ça nécessite une implémentation un peu custom de ta gestion des erreurs. Et là où encore, c'est encore un autre sujet vachement intéressant, je trouve, c'est le stipage strict de tes interactions avec tes fichiers de trad. C'est-à-dire à savoir forcément taper une clé qui existe et que tu veux qu'il y ait une régression dans le compilateur TypeScript lorsque tu pushes un truc qui n'existe pas ou en gros vérifier de la synchronicité du versionning entre ton application et ton fichier de trad.
Mais d'expérience, ça c'est un peu plus compliqué quand tes traductions, c'est pas juste des mots. Comme par exemple, c'est une phrase entière avec par exemple un aspect numérique. C'est-à-dire que tu dis, je sais pas, l'utilisateur a bien sélectionné X table, un truc comme ça. Et ben tu veux que ton string utilise bien la manière idiomatique de représenter les nombres dans la langue. Et du coup, tu dois mettre le X, tu dois en faire une variable en fait.
Ouais, d'accord.
Et table aussi, ça doit varier selon tout ça. Et je crois ne pas avoir encore vu d'outils qui permettent de bien t'assurer que le paramètre X défini dans tes traductions soit forcément passé quand tu utilises la traduction. Ce genre de choses. Je suis pas sûr d'avoir encore vu ça. Je vais pas me tromper.
Mais il me semble qu'il existe des clés, par exemple, si tu veux mettre du pluriel ou du singulier en fonction du nombre de champs qui ont été sélectionnés par un user, par exemple. Ou en gros, tu peux faire la plurialisation au niveau de la déclaration de tes clés, je crois. Mais après ça, de nouveau, j'avoue, je m'y connais pas bien non plus. C'est vrai que c'est des complexités que, personnellement, sur des projets perso, tu gères jamais, quoi, parce que tu fais ton site en anglais, en règle générale.
Personnellement, c'est en provençal.
c'est
toujours mon site en provençal.
Heureusement, je suis pas breton. Mais, mais ouais, carrément. Dis-moi.
Non, mais c'est un problème que j'ai pas non plus expérimenté grandement personnellement, la traduction. Mais je me suis pas mal renseigné sur des librairies pour faire ça. Et je sais que le TypeScript est vraiment un peu la clé de voûte de toutes ces librairies pour qu'elles puissent mieux se vendre dans l'écosystème, parce que c'est un point important, quoi. Et une autre chose aussi concernant les traductions, mais vraiment je vais pas m'étendre plus dessus parce que je m'en suis pas vraiment servi, c'est que quand t'es sur un très très gros projet, un très gros site, c'est pas toi-même en tant que développeur qui va écrire les traductions.
C'est ce que j'allais dire.
Des équipes qui vont du coup pas faire ça dans des fichiers JSON, mais dans des outils type CMS pour rentrer ça, quoi. Donc là, comment après tu gères le TypeScript, c'est encore un problème supplémentaire et je préfère ne pas y penser.
Dans notre cas, on a des traducteurs qui itèrent sur des fichiers Excel qui sont ensuite traduits dans des fichiers JSON. C'est vraiment vieux, quoi.
D'accord.
C'est pas forcément optimal, mais par contre, après, c'est qu'une histoire de décision, mais ce serait nécessaire de refactor ce genre de truc en réalité, je pense. Enfin, ça serait un bel upgrade en tout cas dans l'application. Après, on n'a pas la problématique que tu évoquais tout à l'heure avec les variables, ou en tout cas, on a toujours fait sans, je pense. Après, je peux me tromper, hein. De nouveau, j'ai pas très très bonne connaissance de cette partie de notre codebase. Et par contre, du coup, aussi, il y a un autre point qui est assez important selon moi, c'est faire attention à la compilation qu'on a de TypeScript, c'est-à-dire, par exemple, dans le CI/CD, imaginons que vous soyez sur une stack Angular. Et bien vous fassiez un build et que, ou peu importe en réalité, hein, que ce soit peu importe le framework, le build ne va pas faire foi concernant la totalité de votre application au niveau de son typage. C'est-à-dire que pourrait avoir des erreurs de TypeScript les tests, mais les tests ne sont pas buildés. Donc c'est pour ça que personnellement, j'avoue, je préconise ou alors de faire un build des tests spécifiques, tu fais un TSC vraiment spécifique avec une extension de fichier. Qui vont englober tes tests et différents fichiers de configuration, peu importe. Ou alors, juste de faire un TSC global avant de faire un build, pour éviter d'avoir... après, en réalité, même normalement, tu runs tes tests, et si t'as des erreurs dans tes tests, bon. Ça peut dépendre vachement, mais il faut faire attention.
Je suis pas sûr que si tu lances tes tests avec Jest, ça vienne checker les types, quoi.
Non, j'ai un doute. Je suis sûr que non, dans la stack actuelle ou que j'ai, moi, en tout cas. Je peux pas le dire pour tous les... pour tous les frameworks, même si normalement ça devrait rien changer. Mais en effet, ça ne le fera pas. Et on ne veut pas, surtout, des faux positifs dans ces tests dus à des mutations, des mocks, ou peu importe, faut faire attention à ce genre de side effect, qu'un test passe toujours alors qu'il devrait plus, ce genre de truc, quoi. Donc ça ne veut pas dire que parce que les tests sont passés, il n'y a pas de régression TypeScript ou d'erreur en cours sur les fichiers TypeScript de test. Enfin voilà.
Yes. Ça c'est un sujet important.
Mm.
Et
mais...
je crois avoir vu, je sais plus précisément, je peux me tromper, mais je crois que dans Adonis 5, l'outil de build, même l'outil de build hein, du système, ne checkait pas les types et qui recommandait de faire ça dans une étape supplémentaire.
Bah.
Je peux peut-être me tromper, mais pour justement faire que ton build génère sans TSC du code, parce que TSC ne génère pas forcément le code que tu veux exécuter. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de projets, même avec côté front, avec Vite ou quoi, qui n'utilisent pas TSC pour build le code, mais des outils plus
OS
spécifiques.
Build, tout ça. Et ce dont tu parlais la dernière fois aussi, TSUP.
Effectivement, TSUP, je crois que ça utilise OS Build en interne.
Ah oui, d'accord.
Si je ne m'abuse.
D'ailleurs, à noter que dans Angular 16, je crois, est maintenant disponible le build avec OS Build. Ce qui est vachement bien.
D'accord.
Ou c'est Angular 17 ou 16, je sais pas, j'ai un petit doute. Mais bref, c'est un sujet sympa. Mais
Angular, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus.
Après, enfin, je veux dire, tout à fait. Hein. Mais Angular, c'est top pour les gens qui viennent d'un écosystème un peu Java, etc. Tout comme Nest, en réalité. Hein. C'est vrai que ça, bah, on peut pas leur enlever que dans leur direction et dans la vision de la programmation orientée objet, etc. Bah, ils sont très bons, quoi. Ça fonctionne. Mais après, c'est au goût et aux couleurs de chacun, quoi.
Yes.
Carrément. Carrément, carrément. Eh bien, écoute, si tu n'as rien à rajouter, je pense avoir fait tout mon petit tour. Et
C'était un sujet très intéressant.
Ouais, bah écoute.
J'espère qu'il nous en dira plus bientôt quand on aura résolu ces 8000 erreurs de TypeScript.
Alors, spoiler, je ne résoudrai jamais ces erreurs de TypeScript.
Ah bon?
Non. Enfin, pas dans leur entièreté, et en tout cas, c'est pas l'objet. En fait, je vais jamais me faire une tâche qui va être de régler ces 8000 erreurs, mais en tout cas, d'implémenter peu à peu des briques qui vont venir réduire déjà indirectement cette quantité d'erreurs. Mais le gros problème, c'est que même si tu viens régler ces 8000 erreurs manuellement, tu auras des régressions fonctionnelles quasiment indétectables sur des valeurs par défaut et ce genre de trucs. Enfin, c'est des trucs qui viendront peu à peu et qui vont te bouffer ton temps à 100%, quoi.
Ça veut dire que t'es dans un peu un statu quo où tu sais que t'as ces erreurs, tu sais qu'il faudrait les résoudre, sauf que si tu les résous, ça va introduire sûrement des bugs qui étaient stabilisés parce que le code actuel, même s'il est pas safe, il marche.
Mm-hmm.
Et donc, il n'y a pas vraiment de solution idoine. Quoi.
En fait, le problème, c'est que pour être production ready, enfin, le site est déjà production ready, il est déjà en prod. Et pour éviter d'avoir des trop gros problèmes sur du versionning de sprint, quoi, c'est toutes les deux semaines, il faut avoir plus de confiance dans le refactor. C'est pas possible d'arriver vers le métier et de leur dire, bon, bah voilà, on va passer tant de temps là-dessus.
D'accord.
Par contre, ce qui est nécessaire, et d'ailleurs, après, ça s'applique de nouveau qu'à moi, mais pour avoir confiance dans ta stack, moi, il faut qu'elle soit strictement typée et correctement testée. C'est-à-dire que, avant de venir faire un refactor global de ça, il faut vraiment qu'à un moment T, il faut que je gèle le comportement fonctionnel de mon application. Mais vraiment fonctionnel, c'est-à-dire que je m'en fous de savoir comment il est implémenté under the hood, mais il faudrait en gros implémenter un grand nombre de tests d'intégration sur vraiment le fil rouge métier pour vérifier que ben, sur un chip de refactor technique, j'ai pas des régressions fonctionnelles pour mes utilisateurs, quoi. Et ça dans un premier temps, et aussi dans un second temps, donc là vraiment si je dois faire des checkbox pour pouvoir continuer à travailler sur ces 8000 erreurs, ça serait implémenter des tests d'intégration très cohérents, et un second, ça serait refactor entièrement la gestion des services et comment on consomme de la donnée. Donc par exemple avec Zodios, tu vois, typiquement c'est...
Tu peux nous expliquer ce que c'est ?
En fait Zodios, ça va plus ou moins... ça dépend exactement de ton implémentation, je ne contrôle pas ma logic back. Donc l'idée, ça serait vraiment de définir un contrat moi-même, basé sur l'Open API des API que je consomme, pour que mon client puisse directement instancier un service et qu'il soit strictement typé par la nature du contrat qui a été défini. L'objectif, normalement, initialement, en fait, c'est pareil avec la lib dont je parlais tout à l'heure, TSREST et TRPC, je l'ai bien dit. C'est vraiment un point pivot central entre ton client et ton front. C'est-à-dire que tu viens versionner ce contrat. Et lorsqu'il a une mutation, ça va lever des erreurs TypeScript, logiquement, parce que c'est typé, dans ton client et dans ton bac. C'est-à-dire que s'ils ajoutent la nouvelle dépendance à cette lib partagée, le contrat évolue, et donc les données renvoyées par le serveur devront changer, pour fitter au contrat de l'API, et le client devra aussi changer. Et en ayant confiance dans la structuration et le typage fort des données que tu reçois déjà en entrée de ton site, tu peux vraiment partir sur une nouvelle vision concernant ces 8000 erreurs de TypeScript, en tout cas, c'est mon avis. Mais ça peut évoluer de nouveau.
D'accord.
Voilà.
Je comprends ton besoin de savoir où tu vas, parce que si, comme je le disais, tu viens à tout casser,
Mais c'est le
pas
gros
vraiment de gain,
souci,
quoi.
tu vois, je parlais de code mort. Mais le code
Ouais.
mort, en réalité, c'est pas juste un truc qui est exporté, jamais importé, ou un fichier qui est jamais importé, peu importe. Le code mort, c'est aussi des champs qui sont consommés dans un objet, qui n'est pas strictement typé, et dont tu ne peux pas savoir qu'ils ne sont plus là, parce qu'en réalité, tu ne t'en fous de savoir si un truc est undefined ou nul. Donc, enfin, c'est là, on revient sur le strict null check. Donc, c'est là où c'est compliqué, parce que tu peux pas avoir la confiance de supprimer du code qui consomme une ligne qui est strictement type, enfin qui est soit déjà pas déclaré dans l'interface de base de ta data, ou qui est déclaré mais qui est déprécié en fait, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose qui est providé par l'API, etc. Donc, et on parle de 600 ou 700 routes consommées, donc c'est des volumes que tu peux pas de nouveau gérer manuellement, donc il faut chercher des options. Après, de nouveau, hein, je tâtonne, hein, je dis pas que c'est la solution ou quoi, c'est ma manière d'approcher la complexité. Et la seule source de confiance que j'ai actuellement, et encore, c'est pas exactement vrai, on en reparlera une prochaine fois si ça vous intéresse. C'est l'aspect OpenAPI de mes API que je consomme. À savoir que je dis que c'est pas exactement vrai parce qu'on a un back-end for front-end entre notre client et toutes nos API, sauf que c'est du Java et qu'il n'y a pas de swagger. Donc on n'a pas vraiment. On a perdu une abstraction de connaissances métiers. Donc encore, je parlais des intégrations et du changement de protocole. Il faudrait aussi refaire entièrement ce BFF. Pour qu'il expose une spec OpenAPI riche et qui permette d'automatiser plein de choses. Voilà.
D'accord.
Enfin
Tout à
voilà.
l'heure, tu parlais de Zodios. Je crois qu'on peut générer un client Zodios depuis une spec OpenAI. Je
Tout
crois que
à fait.
c'est
Et
un
c'est le
projet
créateur de
d'Alexandre
Panda
Stamer.
CSS.
C'est ça, oui.
Oui. Et d'ailleurs, il en parle très, très judicieusement. Il dit que si t'as pas le contrôle sur ton bac, que si, pardon, si tu as le contrôle sur ton bac, ça ne sert à rien d'utiliser ça. Vaut mieux directement, enfin, strictement typer les deux avec des outils faits pour. Mais Zodios, c'est fait pour, hein. Là c'est vraiment la conversion dont il parlait. Lui, en fait, ce qu'il a fait comme outil, c'est, il me semble, que ça s'appelle OpenAPI
The
Zodios
Client,
Client. Voilà, en fait, c'est vraiment spécifique au client. C'est un contrat, en fait, qui ne va être utile qu'à ton client. Mais qui est
yes.
génial, hein. Ça a l'air vachement bien, ce truc. Je vais vachement pousser ça et j'en reparlerai. Enfin, j'aimerais bien évoquer ce sujet avec toi dans le futur.
Yes,
Enfin, voilà.
parce que je sais que y a pas mal de développeurs front qui génèrent les types pour enfin des routes retournées par le back-end. Sauf que c'est juste des types, quoi.
Oui.
De validateur ou quoi. Donc,
Sauf si Azod, de nouveau.
voilà. Donc, Zod, c'est l'étape d'après.
Mais là, c'est pareil. En vrai, c'est l'idée de gagner du temps et surtout d'auto-générer des choses et de pouvoir les synchroniser en temps réel, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est fou. C'est-à-dire, t'as vraiment eu plein de mutations sur tes API, bah, tu génères de nouveau le contrat. Et si ton site est strictement typé correctement, enfin, ton TypeScript est bien ficelé, t'auras des erreurs qui vont se lever et t'auras juste à les régler et hop.
Ce qui me fait un peu peur, c'est au niveau du versionning, si jamais ton front est déployé avec une vieille version des types du back, et que le back a été redéployé avec des changements, je sais pas comment ça se passe. Surtout si tu utilises Zod et que tu parses les trucs et que ça fera une erreur si les types sont pas corrects.
Alors, ouais, totalement, carrément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que enfin, ça dépend, mais une complexité qui peut être de faire par exemple des pings sur ton serveur pour savoir si la version de ton front est bien en train de taper une version de ton back auquel tu t'attends. Et si c'est pas le cas, faire un force refresh par exemple ou dire au user, excusez-moi, enfin. Pas excusez-moi, mais tu fais des call to action pour pouvoir faire une éviction de cache ou ce genre de
Ouais.
choses. Mais en effet, ouais, c'est des problématiques à mon avis. Enfin, j'ai rencontré ce genre de problématiques parce qu'en réalité, ça vient même pas juste de ton contrat Zod, mais juste de ton API, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que si tu as un client, ça peut arriver pour n'importe quel système en réalité, hein. Mais du coup, enfin, je crois, je suis quasiment sûr qu'il y a des paradigmes qui sont pas spécifiques à Zod, mais qui pourront s'appliquer très judicieusement à ce genre de situation.
Parce que là, toi, tu parles du fait où c'est un problème de cache, mais ça peut aussi être juste que le front n'a pas été rebuild, des choses comme ça. Bon, après,
Ah là, si c'est une erreur humaine de déploiement, on est
bah,
d'accord,
si
quoi.
ça n'a pas été redéployé automatiquement, ouais, voilà. Mais après, tu peux avoir des problèmes de cache avec ton service worker, des trucs comme ça. C'est
Oui,
la joyeuseté
pour ça.
du cache.
Ouais. Mais après, si tu hashes bien, ça dépend comment tu provides tes assets, enfin ton client, si t'as un, c'est dans un CDN, tu peux faire de la purge, etc. Automatisé avec du hash sur les noms des fichiers, etc. quoi. C'est pour ça que d'ailleurs quand t'es build une application, le nom des fichiers est un peu random, quoi. Enfin, ça dépend vachement.
Ça, c'est un autre sujet.
Ouais,
Peut-être qu'on en parlera un jour,
voilà,
même
là
si je suis moins confiant.
on enfin bon. Eh bien écoute, Baptiste, je te remercie de cette cool discussion sur TypeScript et c'est une déclaration d'amour qu'on lui fait.
Merci à toi, Paul. Merci pour ta
Allez,
connaissance.
see you. Bon, pas que la mienne, hein.
Ton expérience, surtout.
Ouais.
C'est ça qui est important.
Allez, je te remercie et à la prochaine.
À la prochaine, Paul. À
Allez, ciao, ciao.
bientôt.